D'or dans ces championnats du monde, après Elisabeth Görgel dans le Super G mardi. Cette fois, c'est Anna Fenninger qui a décroché aujourd'hui le titre de championne du monde du super combiné, juste devant la Slovène Tina Maze. Mais l'histoire retiendra surtout que l'immense championne Anja Pearson est allée s'offrir une 11e médaille mondiale. Le bronze pour la Suédoise, une 3e place qui vaut pour elle presque de l'or. À 30 ans, critiquée au sein même de son équipe, elle a répondu de la plus belle des façons. L'Allemande Maria Rich n'a pas pu faire mieux que 11e. Quant aux Françaises, on les retrouve encore plus loin. Margot Bellet est 14e, juste devant Marie Marchand-Harvier. Garmisch-Partenkirchen, Richard Vivian pour France Inter.
Merci Richard Vivian, on vous retrouve tout à l'heure.
Nous autres.
Aurélie et Frédéric sont professeurs stagiaires.
Zoé Varier.
C'est-à-dire qu'ils sont professeurs débutants.
C'est usant, moi je me réveille la nuit régulièrement en rêvant de mes élèves. Enfin, on a tout le temps 100 personnes avec nous dans la tête, quoi. Et c'est fatigant au bout d'un moment aussi, quoi.
En septembre, ils ont fait leur première rentrée sans avoir été formés.
Ça donne envie de gueuler, quoi. Ça donne envie de leur dire, mais non, quoi, faut arrêter.
Comment s'en sortent-ils ?
Nous autres.
6 mois plus tard.
Ce soir, à partir de 20h.
France Inter présente Tiken Jaffa Coli. Découvrez du 13 au 18 juin la semaine africaine et solidaire imaginée par Tiken Jaffa Coli à Paris, avec en clôture un grand concert à Paris-Bercy le 18 juin. Retrouvez Tiken Jaffa Coli dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
Bon après-midi sur France Inter, vous retrouvez Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Alors c'est assez étonnant, il est 22h et on a deux directs en ce moment. Il y en a un sur BFM TV où il y a le président Hosni Moubarak qui est en train de s'adresser à son peuple pour le rassurer, et TF1 où on a un président de la République qui est en train de s'adresser à son peuple pour le rassurer. Je ne sais pas lequel des deux est le plus important, je ne sais pas lequel des deux va s'en tirer le mieux. L'histoire va nous le dire.
Bonjour, je fais partie des gens qui ont réussi à aller jusqu'au bout du monologue de Nicolas Sarkozy. Ce que j'aurais compris, c'est qu'aujourd'hui, si les ouvriers qui bossent ne mangent plus à leur faim, ne se chauffent plus, s'endettent pour leurs besoins primaires, c'est à cause d'un seul coupable et 35 heures. Non, monsieur, il y avait surtout un problème de partage. Sachez, monsieur Sarkozy, que s'il n'y avait pas les associations Resto du Cœur, Croix-Rouge, Secours Populaire, pour se substituer au premier rôle que vous devriez avoir, nourrir les gens, la France risquerait de connaître le même parcours que la Tunisie ou l'Égypte.
Voilà, j'ai 88 berges. Vous dire mon attachement à Daniel Mermet, à toute son équipe. Je viens d'entendre l'émission sur Ambroise Croizat, qui a fait partie de ma vie depuis que j'avais 14 ans à la guerre d'Espagne. Je suis absolument bouleversée qu'une émission comme des êtres comme vous puisse encore nous distribuer une heure où nous revivons. Voilà, je vous embrasse tous de tout mon cœur. Et honneur à Ambroise Croizat, qui fut un homme extraordinaire. Et tout ce qu'il a pu faire, le gouvernement actuel, lamine tous ses avantages. Courage à vous de tout mon cœur. Et merci.
Je veux te dire merci, Daniel. J'ai écouté aujourd'hui l'émission et je suis vraiment heureuse d'avoir retrouvé Ambroise Croizat. Car née en 31, bon, j'avais 15 ans à peu près en 46, et je me souviens très bien de ce nom, car j'étais jociste, tu sais, la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, et je militais, je commençais à militer, justement, et j'étais emballée par cet homme qui a donné tout l'élan qui était nécessaire pour créer la sécurité sociale. Et vraiment, je te remercie beaucoup de nous avoir rappelé son nom et puis sa vie. Je ne me souvenais pas de tout. Je t'aime beaucoup. Je t'écoute moins maintenant parce que je suis vieille et je suis fatiguée. Mais je t'écoute depuis très très longtemps. Tu te souviens de ton émission où tu parlais du cafard à homme. Voilà. Allez, je t'embrasse et puis grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices. N'oublions pas Ambroise Croizat. Merci, merci. Au revoir.
Bonjour Daniel. Je viens d'écouter votre émission sur Ambroise Croizat. C'était superbe. J'en ai eu les larmes aux yeux. Bravo à toute votre équipe. Vous faites un travail de mémoire formidable et merci encore.
avec l'ouvrier communiste Croizin, qui a su imposer la caisse d'intempéries du bâtiment, le statut des mineurs, celui des électriciens et gaziers co-signés avec Marcel Paul, on cotise selon ses moyens et on est soigné selon ses besoins. Principe insupportable pour la réaction qui préfère. On cotise selon ses besoins et on est soigné selon ses moyens. Régis de Nîmes.
Bonjour, la loi Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos hôpitaux, nos maternités. C'est tout notre service public de santé qui se détériore, tant pour celles et ceux qui en ont besoin que pour celles et ceux qui y travaillent. Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d'honoraires, les restructurations hospitalières, les privatisations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, la mise à mal de la psychiatrie remettent en cause l'accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. À Anvers, sous-préfecture du Puy-de-Dôme en Auvergne, nous avons perdu notre maternité. La psychiatrie n'a plus de psychiatre. Du bloc opératoire tout neuf, on a chassé les chirurgiens et les anesthésistes et mis à profit cette opportunité pour réduire les temps d'ouverture de cette structure. Le mariage de raison imposé avec l'hôpital de Thiers, situé à 53 km, a du mal à être consommé. L'agonie continue. On subodore depuis cette semaine la fin des actes opératoires sous anesthésie totale, ce qui induit la fermeture du bloc opératoire et une diminution importante, voire totale, des lits en chirurgie. Parallèlement, la radiologie locale doit fermer son activité pour cause de retraite et nous avons des craintes sur les prélèvements sanguins dans les cabinets d'infirmiers libéraux. Plus de tribunal, nos écoles rurales ferment, nos bureaux de poste disparaissent, nos collèges ruraux sont fragiles, on a même voulu nous supprimer nos gendarmes. Notre cas, il n'est pas le seul, est typique de l'étouffement d'une collectivité de citoyens qui veut vivre en dehors des grandes métropoles, vivre, se former, travailler, se soigner au pays. Ce qui se passe chez nous est un cas d'école. Le modèle libéral s'applique dans toute sa cruauté. Si ton calendrier le permet, Daniel, à toi et à ton équipe, viens, venez dénoncer avec nous la lente agonie d'un territoire de vie. Merci.
Vous croyez que les soulèvements populaires s'étaient foutus? Eh bien, frangin, frangine, ça marche encore. Et pour un bon bout de temps.
Salut Daniel, ici c'est Johan Gillier, prof de lettres histoire, représentant CGT au LP Courtois-Daumont, petite ville près de Maubeuge, dans un bassin particulièrement sinistré. Juste pour te signaler comme ça, que les profs occupent leur lycée, ainsi que des collègues du lycée de Maubeuge, tous les soirs, depuis mardi 8 février, en réaction aux suppressions de postes décidées par les sbires de Sarkozy. Alors notre lycée a 14% d'élèves en plus, environ 72 élèves, mais en grande difficulté scolaire et sociale, mais bon, ça ne gêne pas le recteur, puisqu'il décide de nous supprimer 6 postes. Bravo pour la vision d'égalité des chances de ses dirigeants. Puis t'as un petit coucou, de mes collègues.
Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais.
Allez, salut Daniel. Ouais.
Oh, j'ai l'impression que ça, on va l'entendre beaucoup dans les temps prochains, à en juger par les messages que vous avez laissés dans le répondeur de la basse, si j'y suis, dans la boîte vocale du répondeur de la basse, si j'y suis, aujourd'hui. Parce que si c'est pas les magistrats, c'est les enseignants. Si c'est pas les enseignants, c'est cette auditrice qui parle de nous inviter à venir dépeindre la lente agonie d'un territoire de vie. Ça bouillonne dans le répondeur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre sécurité. Ça nous préoccupe beaucoup, beaucoup, votre sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Nous le savons parfaitement. Et rien ne nous empêchera de vous protéger. Alors, on a tout le matériel, à commencer évidemment par les caméras de vidéosurveillance. On va vous en mettre partout, mais absolument partout, dans les rues, dans les ascenseurs, dans les escaliers, dans la cuisine, dans la salle de bain, jusque dans les chiottes. On vous mettra des caméras de vidéosurveillance. Ça sert à rien, ça ne réduit absolument pas la délinquance, mais ça marche. C'est un mystère qui se poursuit et dont nous allons avoir quelques démonstrations aujourd'hui, filmées, fichées, enfermées. Tel est notre thème. Jusqu'où ira-t-on dans le sécuritaire, qui est à la fois évidemment un thème privilégié par les démagogues de tout poil depuis fort longtemps et qui est devenu une branche d'activité, un véritable secteur économique avec évidemment le lobbying qui va avec. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi avoir peur de tout cela, hein? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Nicolas de Paris. J'appelle pour dire que le repère de la base, si j'y suis, de Paris 14e, aura lieu, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, le 13 février à 20h, et c'est au café Magique, 42 rue de Gergovie, métro Pernetti. Venez nombreux.
Bonjour à Daniel et à toute son équipe. Donc nous sommes le Collège Alain à Marom dans la banlieue de Rouen et nous souhaitons témoigner de la situation qui devient catastrophique. En effet, notre problème pour la rentrée prochaine, c'est qu'on perd seulement un élève et on nous supprime deux classes. Donc résultat, c'est des classes qui sont bondées jusqu'à 30 avec des élèves qui sont très souvent en difficulté et évidemment un enseignement qui devient une sorte d'enseignement de masse qui empêche toute individualisation de l'enseignement et une vraie relation aux élèves. Donc on se dit que c'est un bon exemple du massacre annoncé et en route de l'éducation qui devait être pour tous. Et un exemple, la façon dont on traite les pauvres et les plus démunis. Au revoir.
Salut Daniel. Des parents d'élèves qui se mobilisent contre une fermeture de classe, il paraît que cette saison, je pense qu'on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers non plus. Chez nous, c'est une maternelle qui explose à 27 élèves par classe et on ferme une classe élémentaire pour soi-disant la rouvrir l'année prochaine. Mais bon, vous comprenez, pendant un an, on va faire autre chose. Donc nous, parents d'élèves, on propose un double niveau grande section CP et l'administration nous a répondu « Eh bien non, tout simplement ». Donc samedi matin à 10h30, il y a une marche pour l'école et un lâcher de ballon à Gourdon dans le Lot. Samedi matin à 10h30 à Gourdon dans le Lot. Et puis il y a aussi un site internet dont je vous donne l'adresse, siteaupluriel.google.com/site/gourdon-en-danger, tout attaché. Au revoir.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Donc les douaniers d'Alsace se mobilisent, hein, eux aussi comme ceux de toute la France. Nous mettons en place une manifestation spectacle, on vous offrira un petit café ou un petit thé devant le cinéma CGR de Colmar à partir de 15h. Profitant de la sortie du film Rien à déclarer, alors des copains travailleurs vont nous rejoindre, alors n'hésitez pas, hein, surtout. Si vous avez aimé nos manifestations pendant les retraites, vous allez sûrement adorer celle-ci. Il est grand temps de prendre notre destin en main et de se réapproprier l'espace public, comme dirait Franck Lepage. Il ne détricote plus le service public, il le découpe à la hache. Alors demain samedi, devant le cinéma CGR de Colmar, à partir de 15h. Merci à tous. Julien, un douanier sur Saint-Louis et militant existentiel.
C'est marrant, là, parce qu'on voit en fait tout ce que les gens font, ils se promènent avec son chien.
Mais justement, comme je vous dis, mais nous on s'en fout, ce que les gens font, nous c'est surtout dissuasif.
Pour moi, ça reste encore un mystère. Comment cette idée de vidéosurveillance a pu venir à l'esprit d'un ou plusieurs conseillers municipaux, enfin le maire, enfin comment, en vivant ici, ils peuvent avoir cette idée ?
Avant les caméras, pour moi, en tant qu'élu, c'était insupportable. La majorité des gens, ils ont bien compris que c'était mal nécessaire que de mettre les caméras. Voilà.
De la bergerie, donc c'est un vieux berger qui habite là, mais à l'époque, il avait les moutons. Et ils ont mis une caméra qui est accolée à sa maison. Alors on pensait que c'était pour surveiller les moutons, parce que comme il n'y a que lui qui passe là-bas. Mais c'est assez amusant, parce que vraiment, c'est un endroit, enfin, je ne vois pas ce que ça peut filmer.
Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les voitures, ce soit de jour ou de nuit, les plaques d'immatriculation sont enregistrées.
Bravo les caméras. Et donc maintenant, mais on dort tranquille. C'est de la quiétude maintenant, vraiment.
Soyez sans inquiétude, c'est là-bas si j'y suis. Daniel Mermet avec Charlotte Perry. Si vous n'avez rien à vous reprocher.
Alors voilà, il est 9h du matin et on se trouve à Baudinard-sur-Verdon, un petit village d'une centaine d'habitants, perché à 650 mètres d'altitude, sur les collines du Haut-Var, à 1h environ de Draguignan. L'air y est pur et doux, le ciel d'un bleu azur. Et si on est venu jusqu'ici ce matin, jusque dans cet endroit magnifique et tout à fait pittoresque, avec sa petite église, ses passages voûtés, ses ruelles pavées, c'est pour découvrir une curiosité connue de tous et de toutes dans les alentours. Ce sont les 12 caméras de vidéosurveillance disséminées à travers tout le village et qui ont été installées voilà 4 ans par le maire UMP de Baudinard, Georges Ponce. Alors là, on se trouve face à la mairie et justement, on va aller rencontrer Georges Ponce pour essayer de comprendre pourquoi un si petit village, d'apparence si tranquille, est aujourd'hui placé, tout comme ses habitants, sous haute surveillance.
Le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. N'ayez pas peur. Pourquoi auriez-vous peur? Soyez sans inquiétude. Nos barbelés sont de première qualité. Profitez du paysage. Détendez-vous. Notre système de vidéosurveillance relié à la gendarmerie vous permet de jouer avec vos enfants en toute tranquillité. Aucun problème de délinquance. Il y a des tessons de verre tout au lit, autour du lit conjugal. Notre petit nid d'amour est formidable ainsi. Insécurité. Sentiment d'insécurité, exploitation du sentiment d'insécurité, de la réelle insécurité, différence entre la notion de sécurité et de sûreté, ce à quoi s'engageaient les grands principes de la République, la sûreté, mais non pas la sécurité. Bref, le sécuritaire revient fréquemment avec de nouvelles lois, de nouveaux dispositifs de plus en plus liberticides et de plus en plus inefficaces. Ainsi, nous sommes dans ce petit village tout à fait sympathique, à Baudinard. À Baudinard, on vous a à l'œil, Baudinard, sur Verdon, dans le Haut-Var, avec ses 146 habitants et ses 12 caméras de vidéosurveillance, et bientôt 13, parce que la dernière est prévue pour la future déchetterie, afin de voir et de sanctionner tous ceux qui se tromperont de containers en déchargeant leur détritus. Et c'est un constat qui en dit long sur les peurs qui sont propagées par les médias, mais pas seulement par les médias, jusqu'à convaincre le plus rural des paysans que ces poireaux sont menacés, ses enfants en danger et sa femme trop courtisée. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec en tête cette phrase fameuse de Stendhal: les peuples n'ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher.
Quand sonne l'heure d'aller se coucher, derrière leur clôture électrifiée, une fois l'alarme enclenchée, ils se sentent en sécurité. Sur la muraille où ils ont planté des tessons de bouteilles pour décorer, on peut lire gravé au-dessus de l'entrée:
cette devise pour vivre heureux, vivons armés, on fire. Depuis que leur vidéosurveillance braque ses caméras en permanence sur les faits et gestes du quartier, c'est con mais les voisins ne se sentent plus très rassurés. Quand sonne l'heure d'aller se coucher, que les pièges jaloux sont installés, ils se sentent en sécurité, mais tremblent devant les faits divers à la télé. Mais n'est-ce que ça l'insécurité, que chacun s'inquiète pour ses petits trésors? Qu'en est-il de la peur d'ignorer ce qu'on sera demain, ce qu'on mange ce soir, et où ce qu'on dort?
Bon, ben on va rentrer dans la mairie. Aller rencontrer Monsieur Ponce. Pour mieux assurer votre sécurité, cet établissement est placé sous vidéosurveillance. Bonjour monsieur.
Bonjour, vous avez trouvé Baudinard sur Verdun?
J'ai trouvé. Ça va?
Oui.
Moi je m'appelle Monsieur Ponce, Georges, maire de Baudinard depuis 32 ans et passé, voilà.
On va d'abord ouvrir un peu les caméras.
Alors le système. Alors, il est dans la mairie, en fait.
C'est la pièce d'archives, vous voyez bien. Ah, c'est là aussi quand on a ces archives de la commune. Bon, mais c'est bien, là, je veux dire. Il fallait le mettre quelque part.
Ah, vous avez mis un torchon dessus?
Pour la poussière. Voilà.
Ah oui, alors, c'est un écran d'ordinateur, en fait.
De 12 carrés.
Là, c'est le terrain de tennis, là.
Oui, oui, oui. Ça, c'est des garages communaux qu'on aperçoit. Ah, ouais. Ça, c'est l'allée, là-bas, il y a la cimetière au fond. Oh ben, il y en a un peu de partout. Ouais. Ça, c'est celui qui est à l'entrée.
Ça, l'entrée du village?
Oui, et ça, c'est la sortie du village. Ça, c'est la place de l'église, là. C'est là derrière la mairie. Ben, on ira voir tout à l'heure. Après, ça, c'est un système de dôme, mais c'est pas le meilleur système. C'est-à-dire, ça tourne à 360 degrés. Et c'est vrai que des fois, bon, ben.
Il se passe quelque chose de l'autre côté quand
voilà,
elle a tourné.
Voilà. Ah oui, ce type, t'es. Il est là, il attend, c'est le gars qui va vérifier l'ascenseur. Mais hop, t'es. Après, on ne le voit plus. Et ça fait que du temps que la caméra fait le tour, ben, vous voyez, le type, il s'est barré.
Ah oui.
Et remarquez, plus loin, il y a d'autres caméras. Hein. C'est pas un souci. Une fois qu'il est dans le chaîne de vision du village, à l'intérieur du village, il peut pas s'échapper. Il s'échappe, c'est sûr, parce que les caméras, c'est pas lui qui va y mettre les menottes, mais on aura les images pour le confondre, il n'y a pas de souci.
Alors, une fois qu'on est dans le village, on peut plus y échapper, quoi.
Alors, non, il n'y a pas de souci. Puis qu'en fait, cette étude, on avait fait faire une étude, justement pour protéger la totalité du village.
Voilà, vous avez compris. C'est un petit village absolument charmant, joli, briqué, astiqué. Est absolument vide d'habitants qui se remplit de vie, mais seulement l'été avec les touristes. Là, il y a quelques résidents l'hiver, mais bientôt il y aura plus de caméras de vidéosurveillance que d'habitants. Il doit y avoir certains jours où il y a plus de caméras que d'habitants. Pourquoi ce développement extraordinaire de la vidéosurveillance dans notre pays? Bah, c'est pour répondre à un sentiment d'insécurité, à une idée de l'insécurité qu'on sait être le thème favori de la démagogie, disons, traditionnellement de droite, même si la compétition a fait que elle est passée très souvent à gauche, parce que évidemment on veut pas passer pour des laxistes à gauche, alors il y a une surenchère. Et on le sait, le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus surveillé par caméra. Londres dispose, selon les estimations, d'environ 500 000 caméras. Et c'est un thème qui revient souvent, les critiques sont nombreuses sur l'efficacité de ces dispositifs. Et Scotland Yard, qui quand même a une certaine compétence en la matière, parle d'un échec complet. C'est-à-dire que nos voisins britanniques sont en train de laisser rouiller leurs caméras en disant que ça sert absolument à rien. Mais En tout cas, dans ce petit village de Baudinard-sur-Verdon, M. le maire, Georges Ponce, est persuadé du contraire. Il n'est pas d'accord du tout avec les conclusions de Scotland Yard.
En fait, ce qu'on voulait, nous, c'est en tant que mairie, on voulait donner une réponse forte aux populations qui s'inquiétaient. Voilà. L'année avant qu'on installe les caméras, il y avait une vingtaine de maisons qui avaient été fracturées dans le village.
20 maisons fracturées ?
Oui. Mais c'est vrai qu'à cette époque de l'année, là, l'hiver, il y a beaucoup, c'est un peu un village de vacances, Baudinard. Hein. Mais à cette époque de l'année, je suis persuadé que dans le village, il n'y a pas 40 personnes. Hein. Et oui, il y a des rues entières qui sont inoccupées, hein, je veux dire. Et à l'époque, moi, j'en avais parlé au colonel de gendarmerie. Et c'est lui qui m'avait donné l'idée de mettre les caméras. Il m'a dit, là, dans votre affaire, pour vous en sortir, il n'y a que le système de caméras. Et c'est vrai que le conseil municipal de l'époque, on était parti sur ce système-là. Dans la foulée, j'ai été réélu à la tête de la mairie. Ce qui fait peut-être qu'effectivement, ce système sécuritaire a plu au Baudinardais. Du moins, une grosse majorité. À l'époque, on passait un peu pour des, je sais pas quoi, là, hein, pour des sécuritaires, ou je sais pas comment ça s'appelle, ces gens qui ont tout le temps peur. Pas peur, mais enfin, qui voulaient se protéger, finalement, hein, ou protéger les biens des personnes et tout ça. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, on a eu raison avec les autres. Voilà. Dans notre petite commune rurale, la seule solution, c'est la caméra. Ça devenait, je sais pas quoi. On avait une hantise de. On était prêt à faire des patrouilles armées dans le village. On savait plus ce qu'on faisait là. Néanmoins, l'année passée, on a eu la même journée deux maisons fracturées et volées, mais hors chaîne de caméras.
Alors même s'il y a des caméras, il y a quand même.
Mais oui, mais on ne peut pas tout sécuriser. Baudinard fait 2800 hectares. Attendez, on ne peut pas. Déjà, c'est déjà beau ce qu'on a fait, puisqu'il y en a, et ils ne sont pas encore à notre hauteur, hein, au niveau national, je veux dire. Mais après, bon, c'est vrai que si on commence à mettre une caméra devant chaque maison, il faudra vendre dans le village pour arriver à les payer.
Et parce que ça a coûté combien, alors, tout ce système ?
Mais écoutez, ça avait coûté 65 000 euros.
65 000 euros ?
Ouais.
Mais pour une petite commune, ça fait beaucoup quand même, non ?
Nous, la commune de Baudinard, on investit entre, je parle section investissement, travaux, on investit entre 700 et 1 million d'euros par an. Alors, je veux dire, vous savez, c'est une goutte d'eau finalement.
On va faire un tour là pour.
Allez, je rate la bécane.
Hop.
Depuis 2007,
24 novembre 2009,
nous avons financé 300 projets, nous l'État. Chaque année,
Nicolas Sarkozy,
d'installation de vidéosurveillance, 22 000 caméras ont été installées en France. Je vous le dis, en assumant ce choix, notre objectif avec le ministre de l'Intérieur, c'est de tripler le nombre de caméras installées sur la voie publique d'ici 2011. Nous avons quasiment doublé le budget consacré à l'installation de vidéosurveillance, puisqu'on est maintenant une vingtaine de millions d'euros. Et là encore, je ne comprends pas la polémique. Si on installe de la vidéosurveillance, c'est parce que, mesdames et messieurs, sans aucune exception, tous les endroits où de la vidéosurveillance ont été installés, tous les endroits ont vu une progression spectaculaire de la sécurité. Est-ce que j'ai le droit de me priver d'un système qui a fait ses preuves partout ailleurs dans le monde ?
Hop, sort. Voilà. Là, on est sur quelle rue ?
Ben, c'est la grande rue.
La grande rue.
Ouais. Ben, il y en a eu la caméra, là. Vous la voyez, blanche. Celle qui tournait à peine, qu'on a vue devant la mairie, là.
Ouais.
C'est celle-là.
Ah, donc c'est des petits dômes blancs ?
C'est des dômes, comme il y a à Monaco, hein. Je crois que c'est les mêmes qu'il y a, ou bien en Angleterre. Là-bas, il y en a, je sais pas, tous les 10 mètres, paraît-il.
Ah, puis là, vous avez même les petits sacs pour les chiens. Nous, on n'a pas ça à Paris, hein, pour les crottes des chiens.
Attendez, Baudinard, je vous ai dit, on est en avance, mais on n'est pas en retard. Hein. Depuis que je suis élu, la propreté du village, la propreté du cimetière, c'est des choses qu'il faut impératif. Petite anecdote, c'est qu'en fait, ces caméras, il y avait quelques propriétaires de chiens qui, un peu laxistes, comme je veux dire, ils lâchaient le chien dans la rue, puis ils faisaient leurs besoins par-ci, par-là. Mais il y avait les caméras, on y a mis bon ordre.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on a envoyé le chien qui faisait ses besoins sur le trottoir, ou au milieu de la rue. On sortait l'image, j'allais voir le propriétaire, j'ai dit au Kiki, là, regarde ton chien. Alors fais gaffe, hein. PV, 150 euros. Fini. Oh, allez, n'en avez pas une. Hein.
Et là, c'est une petite rue qui monte. Rue du Four.
Il est pas beau, ce village.
Ah, c'est magnifique, hein.
Ah, ça.
Ça, c'est tout le haut du village, en fait. Et ça surplombe. Donc.
Voilà. Mais ça, c'est pas beau.
Ça, c'est quoi?
C'est une table d'orientation. C'est l'horizon, ça. Avec l'indication des... Là, aujourd'hui, c'est un peu brouillard. Mais autrement, on voit très loin. Hein. On voit quatre départements de là. Ah ouais, impressionnant. Derrière, mais on voit pas bien. Derrière, le Luberon. Là-bas, il y en a une caméra. Je sais pas si tu la vois. Près de la bergerie, à droite de la bergerie, là, avec un truc blanc, là.
Oui, oui, oui.
Sur un poteau. Oui. Mais c'est celle-là qui déconne, en ce moment. Qu'elle a pris la foudre, ils sont en train de la réparer.
Et ensuite, là, on continue à descendre. Parce regardez, que... une crotte de chien.
Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caméra.
C'est vrai, là, il n'y a pas de caméra, ici.
Non, pas de caméra. Le jour, il y en aura une. On va mettre là. C'est quand même dégueulasse. Il ne faut pas déconner, un village qui est joli. Crotte de chien, n'importe quoi. Non, ça va pas, ça. Là, c'est fermé, là. C'est tout fermé, là.
Là, c'est fermé. Ça, c'est que des gens qui viennent l'été, le week-end.
Ils viennent les week-ends, ils viennent, voilà. Voilà, vous voyez, elle habite là. Je vais te la présenter, comme ça, tu auras un bon accueil. Madame Boyer, c'est France Inter qui veut te interviewer pour les caméras.
Je suis pas habillée, ça fait rien. Je suis désolée, hein, je vais partir à la douche.
Oh là là. Salut.
Ça va?
Bonjour madame.
Je présente, c'est Suzette Boyer. C'est la présidente des amis d'une association qui s'appelle les Amis de Bodina, qui s'occupe de culture et d'animation.
Et vous alors, vous êtes
la retraite?
Moi j'ai plus de 70 ans maintenant, donc...
D'accord. Vous faisiez quoi avant?
Moi j'avais un cabinet comptable en Côte d'Ivoire.
Et vous alors, vous étiez favorable à l'installation des caméras ou...
Absolument, absolument. Bravo les caméras. Deux fois, on a été cambriolés deux fois.
C'était des professionnels, hein.
Oui. Ah oui, parce qu'ils ont pris que ce qui avait de la valeur. Oui, et donc maintenant, on dort tranquille. Je n'ose pas le dire, mais il y a des fois où j'oublie même de fermer certaines portes. Et puis voilà, parce que je suis... C'est de la quiétude maintenant, vraiment. Bodina, c'est la quiétude, le calme. C'est merveilleux pour moi qui suis à la retraite et qui ai vécu longtemps hors de France. C'est le bonheur. Je pense qu'il faut voir les caméras dans leur ensemble et avec ce qu'elles peuvent nous apporter. Et je pense qu'il ne faut pas penser à son petit cas personnel, bon, ou j'ai un petit copain qui vient, ou un truc comme ça. Alors, de toute façon, on s'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on va voir quelle voiture s'est approchée de votre place ou de votre rue. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est pas d'aller fliquer ou d'aller espionner les gens. Pas du tout. De toute façon, moi, j'avais un papa enseignant qui me disait toujours... Pense que quelqu'un te regarde pour essayer de faire bien. Agis toujours comme si quelqu'un te regardait. Hein, mets pas les doigts dans ton nez, voilà. Je sais pas, c'est une règle de vie. Moi, j'ai pas honte de ce que je fais. J'ai pas honte de ce que je fais, donc si on me regarde, mais tant pis. Vous savez, avant les vieux ici, parce qu'avant le village était habité dans toutes les maisons, il y avait du monde. Et qu'est-ce qu'elles faisaient les petites vieilles? Elles s'ennuyaient, ben, elles étaient derrière leurs fenêtres. Moi, je me souviens de cette époque quand j'étais jeune. Il y avait toujours quelqu'un qui disait « Oh, la petite de madame, elle est passée, elle a un petit copain. » Bon, mais maintenant, les caméras, éventuellement, et elle ne le répète pas en plus. Voilà.
Allez. Bon, allez, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et puis, bonne fin de journée.
Vous aussi.
Merci. Au revoir.
Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué.
Et l'esprit frappeur a frappé.
Qu'est-ce que c'est?
Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides.
commençons, n'osez pas, que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé, une ombre au mur s'est profilée, l'assistance s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré:
mais non, voyons, allons.
Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat, que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça, vous n'avez pas de fluide. Le médium alors se fâcha, il chassa le chat. Une fois dit,
miaou, me voilà.
Quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue du,
dans la queue,
dans la queue,
dans la queue,
dans la queue du chat.
Alors, je m'appelle Evelyne Sirmarin, je suis vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire magistrat, et je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et de la Fondation Copernic.
Voilà, quelqu'un qui peut nous éclairer de sa sagesse et de son savoir et de son engagement concernant la sécurité en France. Nous allons vers une société de plus en plus cadrée par la surveillance de jour en jour, l'école, la justice, la psychiatrie, la prison et bien sûr la police sont dévorés par la tentation sécuritaire. Nos rues, nos magasins, nos espaces publics, nos administrations, presque partout, tout ça est sous l'œil des caméras. Souriez, vous êtes filmés. Souriez, bof, 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 un petit peu jaune quand même, quand on épluche la loi LOPSI 2, les principales dispositions de cette loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, laisse perplexe plus d'une Française et plus d'un Français.
Je pense qu'on va vers une société de surveillance, c'est-à-dire que, au sens large, il y a dans les différentes lois sécuritaires qui ont été votées, on en est à 21 lois là actuellement depuis 2001, c'est-à-dire en 10 ans. Dans ces différentes lois, il y a le projet de surveiller un certain nombre de populations, également de les contenir avec la garde à vue, la détention provisoire, des peines d'emprisonnement pour tout un tas d'infractions qui n'existaient pas, et puis de les punir. Donc c'est ça que j'appelle une société de surveillance, à la fois des lois dites sécuritaires, mais peut-être aussi, je trouve, sur le plan psychologique et individuel, la surveillance de soi. Il faut se surveiller, y compris soi-même, et ça c'est peut-être encore plus inquiétant que tout ce qui est caméra, vidéosurveillance et fichage. Vous savez, il y a 59 fichiers de police actuellement. Donc c'est énorme, 59 fichiers de police. Dans un gros fichier de police qui s'appelle le STIC, où il y a donc 6 millions de personnes mises en cause, mais presque 25 millions de personnes en tout dedans, la CNIL nous dit qu'il y a 17% seulement de fiches qui sont justes. C'est pour ça que quand on dit « c'est pas grave si on n'a rien à se reprocher », si c'est grave. Comme je le disais, on est à 21 lois sécuritaires, il serait peut-être temps un peu de renverser la tendance, de faire un bilan de tout ça, de voir si la vidéosurveillance est efficace. Vous savez qu'en Angleterre, il y avait 4 millions de caméras. Le gouvernement, qui est pourtant un gouvernement de droite, a décidé de faire une sorte de bilan et de moratoire de tout ça en disant que ça coûte extrêmement cher et que c'est pas du tout efficace. Le prix d'une installation de vidéosurveillance dans une petite ville, c'est plus de 100 000 euros. Mais après, il faut de la maintenance pour toutes ces caméras. Et surtout, il faut des gens qui regardent ces caméras en permanence. Et souvent, les caméras sont en panne. Et donc, voilà, ils ont décidé, plutôt que d'investir dans la technique pure, d'investir dans l'humain, c'est-à-dire des policiers de proximité et puis des éducateurs, une sorte d'encadrement de la jeunesse, mais encadrement éducatif. Voilà, c'est un autre choix. Nous, en France, on va plutôt dans le sens d'accroissement d'une société de surveillance. Il est évident que la vidéosurveillance, bien sûr, il y a un lobby énorme qui est toute l'industrie de la punition et de la sécurité. Le secteur de la sécurité, c'est à peu près le seul secteur qui recrute en France, où il y a de plus en plus d'emplois. Donc, toutes ces entreprises de vigile, de surveillance, de sécurité, il est évident que c'est un lobby extrêmement puissant qui a tout à fait intérêt à ce qu'on vote des lois où il y ait de plus en plus de caméras de vidéosurveillance en France. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un lien entre l'économie et le législatif qui est un lien, là aussi, que le Parlement devrait quand même un petit peu étudier et pour lequel le Parlement devrait se donner le temps de faire un bilan de toute cette industrie de la punition et son interpénétration avec le vote de loi de surveillance et sécuritaire.
À Lyon, impossible de les rater. 219 caméras de vidéosurveillance scrutent en permanence le centre-ville. Aujourd'hui, elles font partie du décor et depuis 10 ans, les Lyonnais ont eu le temps de s'y habituer.
Télé Lyon Métropole.
Sans pour autant savoir si elles sont vraiment utiles.
5 août 2010.
Dans les rues ? Ah oui, bien sûr, ça sert. Hein. Ça, c'est même certain. Hein.
C'est pas parce qu'il y a une caméra que je vais me sentir mieux, quoi. C'est pas la caméra qui va me défendre.
Les avis sont partagés. Celui de la Chambre régionale des comptes, lui, est bien tranché. En 2008, les caméras ont permis 200 arrestations. Autant dire, pas grand-chose.
Si on ramène ce chiffre à un peu plus de 20 500 faits de voie publique par an...
Cécile Avézard.
C'est relativement faible.
Magistrate à la Cour des comptes.
Donc effectivement, nous avons conclu que l'utilisation judiciaire de la vidéosurveillance était quand même marginale.
Encore plus significatif peut-être à Villeurbanne, là où il n'y a aucune caméra. La délinquance a même plus fortement baissé qu'à Lyon. Une preuve supplémentaire pour la mairie que les caméras en ville, ça n'est pas la solution.
Préfecture.
Oui, allô.
François-Xavier Loche.
Ah, écoutez, actuellement dans le Var, nous avons 69 communes qui sont équipées d'un dispositif de vidéoprotection.
Directeur de cabinet du préfet du Var.
Et un ensemble d'à peu près 1100 caméras. S'ajoute à cela 93 établissements publics qui sont également équipés. Puis il ne faut pas oublier également tout le dispositif qui est mis en œuvre par des établissements privés. On en a 1600, des banques, des grandes surfaces. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous menons une politique résolue de multiplication de ces caméras sur la voie publique. Et par exemple, cette année, en tous les cas au cours de l'année 2010, nous avons validé 376 dossiers de vidéoprotection. Donc en fonction des collectivités, nous subventionnons ces installations à hauteur, c'est une moyenne de 30%. On a pu aller à des taux relativement élevés de subventions, 75% maximum. Le but, c'est de faire un effet de levier et engendrer finalement une multiplication des dispositifs sur la voie publique.
Mais donc pour Baudinard, 12 caméras pour 40 habitants dans le village, une centaine sur la commune, ça vous paraît pas excessif ?
Écoutez, nous sommes dans un département, et je me permets de m'en féliciter, où nous avons des élus qui souhaitent installer ces dispositifs. Je vous rappelle que le maire est doté d'un pouvoir de police et que la délinquance sur le territoire d'une commune doit être sa préoccupation. Très clairement, on fait en sorte d'apporter ces subventions aux endroits où il y a le plus de délinquance.
André Coldebœuf, maire des Salles-sur-Verdon. Alors, au Salles-sur-Verdon, on est environ 200 habitants recensés et la population passe à 3500, 4000 en été. C'est un village touristique au bord du lac de Sainte-Croix, à la sortie des gorges du Verdon.
Donc le village de Baudinard s'est équipé de caméras. Est-ce que vous comptez faire pareil ?
Certainement pas. Non, certainement pas. Je trouve le dispositif onéreux, inutile, inefficace. C'est pas du tout adapté à nos régions et encore moins à nos villages. Il y a pas plus de délinquance ici qu'ailleurs. Bon, et avec les caméras, on ne fait que déplacer les problèmes. Et puis le type de problème qu'on rencontre sur nos communes ne serait pas résolu par la présence de caméras. Bon, on a un type de délinquance. Il faut pas dire qu'il y a pas de délinquance, mais enfin, c'est des grands mots pour. Je sais pas, pour dire que, par exemple, qu'il y a du camping sauvage, mais quand il y a du camping sauvage sur les bords du lac, à quoi servent les caméras? Quand des jeunes font du feu au bord du lac en été, on les voit à des kilomètres. Il faut pas le faire, c'est dangereux, on le sait. Mais là encore, il suffit d'avoir les moyens humains suffisants pour aller voir ces gens-là. Donc discuter, leur faire éteindre le feu, éventuellement les verbaliser. Donc donnant des moyens, par exemple, à l'ONF, l'Office national des forêts, donnant des moyens à la gendarmerie, donnant des moyens aux services d'État en général, pour qu'ils puissent assurer à la fois cette prévention et cette répression pour une délinquance, entre guillemets, encore une fois, qui vaut vraiment pas qu'on installe ces systèmes de surveillance, quoi. C'est ridicule, ridicule. On marche sur la tête quand on pense remplacer tous ces feignants de fonctionnaires par des machines. Sur ma commune, il y a peu ou pas de vols. Vraiment, là, la mise en place du dispositif est tellement coûteuse que, je vois pas du tout l'intérêt, quoi, par rapport au risque. Oh, mais je peux pas dire que ça n'arrive jamais. Enfin, il y a ce genre de choses qui peut arriver. Mais enfin, un système de caméra comme celui de Bodinard, je sais plus les chiffres, mais c'est entre 60 et 100 000 euros. En hiver, on est entre nous, c'est calme. Enfin, bon, bref, vous avez vu le village. Je sais pas ce qu'ils filment à Bodinard pendant l'hiver. Ce serait intéressant de regarder. Parce qu'il y a pas grand monde dans les rues.
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien à la société Edip à l'armée service.
Oui, tout à fait, madame. Edip, c'est la plus ancienne société de sécurité du Var. C'est la plus grosse boîte de la région. Bon, on a énormément de grosses propriétés sur la Côte d'Azur, mais sinon, c'est le port de Marseille, les usines Pechiney, c'est la gare de Valence, la gare de Orange. Enfin, toutes les plus grosses et belles installations du sud de la France ont été faites par Edip.
D'accord. Je vous appelle sur les conseils du maire du village où je viens d'acheter une maison. Lui a équipé le village d'un système de vidéosurveillance, mais malheureusement, il va pas jusque chez moi. J'habite un petit peu en extérieur du village. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Parce que bon, moi, c'est une résidence secondaire, donc je ne serai pas souvent là. C'est le village de Bodinard.
Bodinard. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on met de la vidéosurveillance, oui, on va voir les voleurs. Mais ça sera pas très pratique, et ni pour vous, ni pour l'assureur, de dire, effectivement, il y a bien eu trois personnes cagoulées qui sont venues, qui ont tout cassé, qui sont parties. Il est plus sensé de dire, on met un système d'alarme anti-intrusion. Ensuite, si c'est vraiment l'ours qui a protégé, on met un petit fumigène. L'intérêt du fumigène, c'est de gagner les petites 30 minutes qui vont servir aux moyens d'intervention d'arriver sur place.
Comment c'est un fumigène?
C'est un fumigène dès que l'alarme s'enclenche. On va dire que les voleurs cassent une fenêtre, le système s'enclenche, le fumigène, en fin de compte, s'apprête et se met en garde. Mm-hmm. Les sirènes sonnent, lui, il arrive dans le couloir et on lui envoie 50 mètres cubes de fumigène. Ça inonde 50 mètres cubes, ça rend inopérant la maison sur un rez-de-chaussée de 100 mètres carrés pendant 35 minutes. C'est-à-dire que l'individu à l'intérieur, même avec une lampe torche, même s'il allumait les lumières, il ne peut pas voir son doigt devant son nez. Soit on met des cartouches au paprika, soit on met des cartouches fumigènes agressives. Même quand vous êtes initié, c'est choquant. Hein. Les individus vont quand même essayer, hein. Ils vont tester. Ils vont essayer de rentrer chez vous. Une fois qu'ils auront subi ce genre de sinistre, ils oublieront votre maison. Voilà. Donc si, admettons, les voyous ne rentrent pas dans la maison et qu'il n'y a pas de déclenchement d'alarme, mais que par contre il y a une dégradation de la façade, ou une dégradation d'un de vos biens dans votre propriété, vous l'aurez en vidéo.
Ça coûte à peu près combien les systèmes?
Alors, sans fumigène, l'installation vous coûterait 2500 euros hors taxe. Si vous rajoutez le fumigène, selon le volume du fumigène, il faut rajouter 1000 euros. Quant à la vidéo, en fourniture, on arrive à 2000 euros, et puis après c'est 1500 ou 2000 euros pour la pose.
Donc pour bien équiper toute ma maison, 6000 euros à peu près, il faut compter.
Ouais, avec 6000 euros, vous avez quelque chose de bien.
Ok, très bien, je vous remercie.
Et à votre service, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Je m'appelle Mathieu Bonduel, je suis secrétaire général du syndicat de la magistrature. On est dans une logique de productivisme pénal et de productivisme répressif. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement punir, il faut punir beaucoup, je dirais de manière un peu indistincte.
Voilà. Les magistrats sont remontés, comme vous le savez, en ce moment. Ils sont notamment remontés contre la guerre que leur fait le chef de l'État, mais aussi beaucoup d'entre eux, notamment le syndicat de la magistrature, contre la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dont j'ai parlé tout à l'heure, et de façon générale sur ce sécuritaire qui prévaut et qui gagne dans ce pays.
Alors on pourrait nous dire, bah pourquoi se mobiliser spécialement sur ce texte? D'abord parce que tout de même, cette accumulation devient absolument insupportable. Et puis parce que ce texte, par son ampleur, marque un cran supplémentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un agrégat de dispositions techniques. C'est un projet de société. Quand on dit on va mettre des caméras de vidéosurveillance partout, et que derrière ces caméras, il pourrait y avoir des personnes employées par des entreprises privées, parce que c'est ça qui est prévu dans ce texte. Quand on dit qu'on pourra afficher, y compris des gens qui ont été innocentés, des gens qui ont fait l'objet d'un acquittement ou d'une relaxe, donc des gens qui sont innocentés, on est en présence d'un texte qui marque une rupture des équilibres démocratiques de base. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et il y a une fascination totale pour les nouvelles technologies dans ce texte. On a l'impression que les rédacteurs du texte ont un peu trop regardé les experts à Miami ou à Manhattan. Et il y a, plus sérieusement, une logique de privatisation qui est à l'œuvre. Sur la vidéosurveillance, non seulement on veut mettre des caméras partout, alors qu'on sait très bien, il suffit de regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne, que ça ne permet pas de lutter efficacement contre la délinquance. On veut mettre des caméras de surveillance partout, mais en plus, on vient nous dire que ces caméras seront contrôlées par des entreprises privées. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'en même temps, qu'on accroît le maillage, je dirais, de l'espionnage de l'espace public, hein, il faut appeler les choses par leur nom, et bien en plus, on privatise cet espionnage, c'est-à-dire qu'on permet à des entreprises privées, sans aucun contrôle, ou avec des contrôles complètement fictifs, de mettre des caméras sur la voie publique, dans nos rues. À la fois, on accroît le contrôle, et en plus, on le privatise, et c'est ça, c'est cette double logique-là qui est tout à fait cohérente avec l'idéologie libérale. L'idéologie libérale, c'est ça, c'est effectivement moins de contrôle pour les uns, beaucoup plus de contrôle pour les autres, et puis surtout de l'argent, évidemment, au privé et beaucoup moins au public. Tout ça est condensé dans ce texte.
Le quotidien londonien Daily Telegraph
Itélé.
Publie aujourd'hui une enquête très très étonnante.
6 mai 2009.
Selon Scotland Yard, c'est quand même pas n'importe qui, hein, non seulement les caméras de surveillance en Grande-Bretagne ne servent quasiment à rien, mais en plus, elles coûtent, dit le rapport, des fortunes à installer, première chose, à entretenir, deuxième chose. D'abord, sur quoi s'appuie cette enquête pour tirer des conclusions aussi drastiques?
C'est plus intéressant, elle s'appuie sur l'expérience, tout simplement. Ils ont vraiment 10 ans de recul. Et c'est l'heure du bilan, et le bilan est assez affligeant, il faut bien le dire. Scotland Yard conclut qu'en fait, le taux d'élucidation des délits est totalement insignifiant. On a pu aider à élucider un crime pour 1000 caméras. C'est absolument rien, oui, c'est et bien. C'est justement la une du Daily Telegraph ce soir.
Et accessoirement, ça coûte une tonne.
Ah oui, alors ça c'est incroyable. Ça coûte quelque chose comme en 10 ans de temps, on a dépensé 500 millions de livres sterling, juste pour les installer. Ça fait 570 millions d'euros.
Ah oui.
C'est pour vous dire. En fait, ça coûtait 23 000 euros par crime ou par délit résolu, c'est-à-dire un chiffre absolument invraisemblable, sans parler évidemment, vous l'avez dit, du coût de la maintenance, de ce que ça coûte en personnel, nécessaire pour lire ces vidéos, pour les stocker, et puis ensuite pour les utiliser, une horreur.
Et Michel.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ah, Michel.
Bonjour monsieur.
Bonjour, enchanté.
Enchanté.
Et Michel, il se me donne de sa mère et je suis allé à l'école avec lui, à Beaudinard.
Oui. C'est vrai.
Alors, moi je suis né ici.
Dans cette maison là?
Au premier étage, oui.
Et alors vous étiez favorable pour mettre des caméras dans le village?
Absolument. Pour les villages qui sont comme Beaudinard, là, bon, en été, il y a beaucoup de monde, mais en hiver, il n'y a personne. Hein. Il faut les protéger, et la seule manière de les protéger, c'est de mettre des caméras. Regardez, à Londres, il y a beaucoup moins de voyous, parce que les voyous, ils sont arrêtés. Hein.
Mais là, dans les alentours, il y a d'autres villages aussi qui ont mis des caméras?
Je sais qu'en plus, s'y est mis. De plus en plus, c'est obligé. On tombe à des problèmes de délinquance et ça devient plus supportable. Ce qui nous est arrivé à nous, on était à deux doigts de prendre les fusils et faire des patrouilles. Michel, c'était ça. On ne pouvait plus.
Oui, à une époque, il y avait des gars, là, des voyous qui venaient dans la semaine, la nuit, et ils faisaient 3-4 maisons, au moins deux, quoi. Bon, moi, je suis là occasionnellement. Moi, ma maison, on peut me la voler. On peut voler tout ce qu'il y a dedans, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mais enfin, on peut l'ouvrir, on peut prendre le minimum, voilà, faire des dégâts, quoi. Voilà.
Moi, je suis un peu sécuritaire, hein. Je vous l'avoue, franchement. En plus des caméras, on a une alarme à la mairie. On a une alarme à chaque salle des fêtes. On a une alarme dans l'église. Et on a une alarme dedans les endroits où c'est que le service technique de la mairie met tout le matériel, tronçonneur, débroussailleur, des alarmes de partout. En plus des caméras. Voilà.
Bon allez, à plus tard.
Au revoir. Vous habitez tout à Ops, mesdames?
Oui, on a tous les commerces ici.
Ah d'accord, vous avez quel commerce?
Alors l'épicerie,
d'accord,
Martine, la déniche, Julie, le magasin donc bijoux et Florence, optique Gaumont.
Combien de fois vous êtes fait braquer ou agresser ici?
Non, pour l'instant, tout va bien. Il ne savait même pas que ça existe. Oops.
Parce que justement, je vous posais la question, parce que là, je reviens de Bodinard et ils ont installé des caméras de vidéosurveillance dans tout le village. Et je voulais savoir si les habitants de Hops, par exemple, seraient favorables à l'installation d'un tel dispositif ici.
Non, pas du tout.
Non. Vous ne voulez pas me dire que vous seriez un petit peu mieux avec des caméras?
Elle travaille pour électrique, je ne sais pas trop quoi. Et elle veut absolument nous mettre des caméras.
Non, mais parce que là, le ministère de l'Intérieur, justement, ils veulent installer trois fois plus de caméras partout en France. Alors,
on est pour la liberté de l'individu. Ras-le-bol, quand même.
Pour mettre de l'argent là où il y en a besoin, mais pas là où il n'y en a pas besoin, quoi.
Bon, ben merci.
Et voilà, ça finit bien par le bon sens. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Georges Ponce et aux habitants de Baudinard-sur-Verdon. Merci à André Coldeboeuf, à Antoine Faure, à Evelyne Sirmarin, Mathieu Bonduel du syndicat de la magistrature. Et le livre de la Fondation Copernic, Filmé, fiché, enfermé, est sorti chez Sileps. En janvier 2011. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. Sophie Moreno et Patrick Henry étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.
Bonjour, c'est Eva Bétan. Vous aimez lire? Vous souhaitez faire partie du jury du Livre Inter, présidé par Amin Malouf?
Lire, c'est prendre dans ses propres mains la connaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important.
Alors écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures, avant le 21 février minuit, France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16.
16h passées de quelques secondes, on se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Plus d'un million de manifestants en Égypte au lendemain de l'allocution du président Moubarak. Les Égyptiens sont descendus massivement dans les rues. Ils sont rassemblés en ce moment devant le siège de la télévision d'État, mais aussi devant le palais présidentiel. Déçus de ne pas avoir obtenu la démission du président égyptien, ils attendent des signes. La télévision égyptienne devrait faire une annonce importante dans les minutes qui viennent. Ce matin, l'armée égyptienne s'est portée garante des réformes promises par Moubarak après avoir délégué ses pouvoirs au vice-président Souleyman. Hosni Moubarak a quitté le Caire avec sa famille pour sa résidence de Sharm el-Sheikh dans le Sinaï. Des affrontements ont fait une centaine de morts au Sud-Soudan, affrontements entre l'armée et les rebelles, des violences qui surviennent après la publication des résultats définitifs du référendum de janvier. 99% des votants se sont prononcés en faveur de l'indépendance du sud du pays. En France, les magistrats ne désarment pas. Les organisations syndicales, très déçues par l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy, appellent leurs troupes à poursuivre le mouvement. À Nantes, les magistrats viennent de voter à l'unanimité le report des audiences jusqu'à jeudi prochain. Au tribunal de grande instance de Paris, juges, greffiers et fonctionnaires de justice ont d'ores et déjà renvoyé les affaires non urgentes jusqu'à mardi midi. Une rencontre est prévue en début de semaine entre les syndicats et le garde des Sceaux. La mère de Florence Cassé en appelle au président de la République. Nicolas Sarkozy recevra lundi la famille de la Française après le rejet de son pourvoi en cassation. La justice mexicaine a confirmé sa condamnation à 60 ans de prison pour complicité d'enlèvement et de séquestration. Dernier recours pour Florence Cassé, la Cour et la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Consternés, sa famille et son comité de soutien demandent l'annulation de l'année du Mexique en France. Jean-Luc Romero, le président de son comité de soutien.
Il reste des recours internationaux, mais ces recours, vous savez, c'est 5 ou 6 ans, vous imaginez, Florence Cassé est depuis 5 ans en prison. C'est absolument insupportable pour une innocente. Tous ceux qui ont vu son dossier, et encore récemment, l'Église catholique, un ancien ministre de la Justice mexicaine, l'ont eux-mêmes dit, cette fille est innocente. Voilà, donc ça veut dire encore des procédures de 5 à 6 années. C'est évidemment inacceptable, et c'est pour ça qu'il faut aussi, bien sûr, des réactions politiques, à la fois gouvernementales en France, qui se font, et je m'en réjouis. Et puis, bien sûr, vous savez, c'est quand même l'année du Mexique en France. Pour nous, il est inacceptable que cette année puisse avoir lieu aujourd'hui et dans ces conditions-là. D'ailleurs, moi, j'appelle tous les élus qui ont entrepris des manifestations aujourd'hui à les suspendre immédiatement. Je crois que voilà, on ne peut pas accepter de faire la fête aujourd'hui quand on voit à quel point la justice n'existe pas au Mexique.
La ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, qui parle de déni de justice, refuse d'ores et déjà de participer à ces festivités. Le procès de Jacques Chirac devrait commencer sans lui. Ses avocats en ont fait la demande. L'ancien chef d'État doit comparaître à partir du 7 mars dans une affaire d'emploi présumé fictif de la ville de Paris. Un mot de sport avec la victoire de l'Autrichienne Anna Fenninger, sacrée championne du monde dans le super combiné. Elle est arrivée première à l'issue de la descente et du slalom aux mondiaux de Garmisch-Partenkirchen. La première française, Margot Bellet, est 14e.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec Le Monde des Livres, Sébastien Lapac pour son journal Au hasard et souvent chez Actes Sud.
Il parle beaucoup de ses rencontres personnelles. C'est une façon de projeter une lumière qui vient de loin et dont on s'aperçoit qu'elle nous nourrit.
Et François Taillandier pour son roman Time to Turn chez Stock.
François a même écrit des essais sur cette question de la destruction du langage.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Musique et France 3, partenaires des Victoires de la Musique Classique, lundi 14 février à 20h35. Une soirée exceptionnelle à la Cité des Congrès de Nantes, avec les artistes qui ont marqué l'année 2010. Plus de 2 heures de musique en direct sur France Musique et France 3. France Musique, une chaîne de Radio France. France Inter. France Inter. La différence.
Il est 16h05 et vous retrouvez Frédéric Ledéon.
Bonjour Delphine, bonjour à tous. Carrefour de l'Odéon. Bienvenue dans cette heure musicale, enfin un peu moins, 55 minutes, ça dépend des jours bien sûr, mais en tout cas ce qui est tout à fait certain, c'est que la musique ici circule et le disque est toujours présent, je le répète à chaque fois, mais avec un plaisir non dissimulé, puisqu'on vient de recevoir un long coffret, Schubert, ça s'appelle le projet Schubert, maintenant on fait ça, on parle de projet, donc c'est le projet de l'orchestre symphonique de Bamberg, c'est publié chez Tudor, et le chef c'est Jonathan Notes. Alors il y a les symphonies de Schubert, avec une numérotation qui change un petit peu par rapport à l'habitude, mais bon, les recherches musicologiques justifient peut-être cette histoire-là, qui n'est pas primordiale. Et puis, il y a aussi des ajouts, il y a des œuvres inspirées par Schubert à des compositeurs d'aujourd'hui, et puis il y a des adaptations à la fin de ce long coffret, parce que tous les disques sont alignés, ça se déplie, c'est assez impressionnant, c'est tout noir, peut-être trop impressionnant, je ne sais pas. En tout cas, voici la musique. Pour commencer, un extrait de la 3e symphonie du bon Schubert. À 17 ans, il est amoureux d'une certaine Thérèse Grob, assez jolie, quoi qu'on en ait dit par la suite, très bonne et dotée en plus d'une belle voix de soprano. Quand je dis bonne, c'est dans le sens d'autrefois, hein, gentille, le beau, vous savez. Et à l'automne de 1814, c'est l'année du congrès de Vienne et de Fidelio pour Beethoven, le seul opéra de Beethoven. Et il va accepter, le pauvre Schubert, un poste d'instituteur adjoint auprès de son père. Alors il lui faut sévir auprès de gamins de 6 ans qui chahutent évidemment et qui perturbent ses pensées au moment même où il signe d'éclatants chefs-d'œuvre comme Quatuor à cordes en si bémol, et puis il y a des pièces par centaines, on peut dire 140 leaders, 140 mélodies, dont le fameux Roi des Zones, 4 opéras comiques, Singspiele en allemand, 2 messes, un 9e Quatuor à cordes, 2 sonates pour piano, une nouvelle symphonie, la 3e dont on va entendre la conclusion. Elle a été composée en mai et au début, enfin, et puis abandonnée un peu, reprise à la mi-juillet et vraiment finie, complètement achevée en 9 jours. Et par rapport aux précédentes, cette nouvelle partition est assez moderne. Elle a une expression vive, concise, un peu inattendue parfois. Le final, c'est une sorte de tarentelle, donc de danse de l'Italie du Sud, de Schubert n'y est jamais allé, mais il en a certainement reçu quelques échos à travers les partitions ou quelques musiciens venus le visiter ou visiter Vienne tout simplement.